BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de Tout pour investir, l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi à la radio, à la télé, mais aussi sur le web. Et nous sommes en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France, peut-être de Suisse, comme Thomas Veillé et nos auditeurs suisses qu'on salue, et francophones, peut-être aussi en Belgique, au Luxembourg ou ailleurs, simplement dans le monde entier. Au programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier comme tous les jours. Marie-Cœur de Roy est de retour. Aujourd'hui, nous serons avec un notaire. Voilà, le point immo avec un notaire. La question du jour portera sur le début des résultats trimestriels aux États-Unis. Quels sont les thèmes à surveiller pendant ces publications semestrielles? Félix Baron du Club des investisseurs indépendants va nous dire à quoi vont prêter attention les traders, les opérateurs de marché et que nous pouvons également surveiller, nous, investisseurs particuliers. Et puis nous allons zoomer sur l'endettement immobilier des ménages. Il inquiète Frédéric Lorenzini de Deep Darsana, cet endettement. La cote d'alerte est-elle atteinte? Une note de la Banque de France s'est récemment penchée sur l'endettement immobilier des ménages. Nous allons l'éplucher en fin d'émission. Au programme, il y a vous, chers auditeurs et auditrices. Marilyn nous a écrit au sujet de son PEA. Nous allons continuer à traiter ce sujet PEA au fil des émissions. Je vous propose le lundi de nous arrêter sur la gestion du PEA, de faire un petit peu d'éducation financière sur ce sujet dorénavant, tous les lundis, avec l'équipe du lundi de Tout pour investir. Et vous pouvez également m'écrire sur LinkedIn, comme Jean-Yves, comme Jean-Marc, comme Jonathan également, qui nous suivent et qu'on salue. Il est l'heure d'aller faire le point avec Antoine du côté d'Euronext, avec notre CAC 40. Écoutez, qui est plutôt dans le vert. Alors, on se parle. Cher Antoine, on vous rejoint du côté d'Euronext, tendance plutôt stabilisée à Paris, avec le CAC dans le vert, comme je disais, à 8063 points.
Oui, on va pas parler de retour de l'optimisme pour le moment. Des signes de tension, on en a partout sur les marchés. On y reviendra dans quelques instants. Mais effectivement, du côté des actions, en tout cas, on a un sentiment un petit peu meilleur. Faut dire qu'on sort d'une baisse d'un petit peu plus d'1,2% sur l'ensemble de la semaine écoulée, avant même les énormes tensions entre Israël et l'Iran ce week-end. Donc, on pouvait légitimement croire à une ouverture vraiment turbulente hein, ce matin. Mais c'est pas le cas. Le CAC 40, lui, repart à la hausse. On a un indice parisien qui reprend 0,66% et on monte à 8063 points. Du côté des autres places européennes, même teneur, hein, plus 0,8% tiens, même pour le DAX à Francfort, plus 0,89% pour l'Eurostox 50. Donc on a vraiment le sentiment d'une forme de soulagement. On respire un petit peu sur les marchés. La plus forte hausse du CAC 40 pour le moment, elle est pour Stellantis qui gagne 2,7% à 25,06€. Schneider Electric plus 1,8% à 213,25€. Et puis un aspect intéressant de la séance d'aujourd'hui, c'est que, alors, hors toute considération géopolitique, il y a une dynamique qui anime le marché et qu'il ne faut pas oublier, c'est une sorte de découplage qui est en train de s'opérer entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis, où la Fed semble vouloir se donner le temps avant de commencer les baisses de taux, alors que du côté de l'Europe, on avance d'un pas plutôt décidé dans cette direction. Donc, les taux européens, eux, restent relativement sages, alors que ça s'est diablement tendu du côté américain, avec un 10 ans qui a dépassé les 4,5%. Donc, du coup, ça redonne un petit peu d'oxygène aux valeurs de croissance et notamment aux valeurs du luxe. Hermès qui gagne 1,5% à 2304€. On a également la techno qui se porte bien avec Dassault Systèmes qui prend 1,07% à 39,67€. Alors les valeurs à la baisse, on va en parler dans quelques secondes, mais comme le pétrole a tendance à corriger un petit peu, on a Total Energy qui recule dans le sillage de 0,9% à 68,47€. Sinon quelques dossiers sont mis de côté. Orange moins 0,62 à 10,37€. Téléperformance moins 0,36 à 89,18€. Baisse plus sévère en tout cas pour Neuen qui signe la plus forte baisse du SBF 120 à moins 3,95€. On est à 28,68€. La plus forte hausse, elle est pour Atos qui gagne 4,5% à 1,86€. Le CAC donc plus 0,66%, 8063 points et l'euro 1,0661. Lorraine.
Voilà. CAC plutôt bien orienté à 11h10 et puis une baisse des tensions évidemment à suivre le décryptage d'Antoine et de notre équipe à Euronext tout au long de la journée. Antoine, c'est l'heure de votre histoire.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
C'est l'heure de votre histoire et malgré tout, nous restons sur des points de tension assez importants sur tous les actifs hein, qui agissent évidemment de manière quasiment corrélée à la géopolitique. Racontez-nous, Antoine, ce que font le pétrole, l'eau et puis peut-être qu'on aura le temps de toucher un mot sur les taux.
Oui, exactement, parce que le pétrole, on en a beaucoup parlé, mais rien que vendredi, il y a eu une énorme pointe au-delà des $92 pour le Brent de mer du Nord. Et là, c'est vrai qu'il y a une petite correction. On est repassé très légèrement sous les 90 dollars à 89,57. Donc, dans le sillage de ce sentiment de soulagement sur les marchés, soulagement de court terme, parce qu'on sent que les choses peuvent encore évoluer dans un sens ou dans un autre. On voit que, de toute manière, ces tensions font vraiment réagir deux pays très, très importants pour le domaine des hydrocarbures, à savoir l'Iran, qui est un des principaux producteurs de l'OPEP. On a également Israël, qui est un grand producteur de gaz, et puis toute la région qui est réactive à tout ça, puisqu'il y a des pays producteurs un petit peu partout. Donc, les cours du pétrole restent élevés. On sait que les tensions perdurent aussi du côté du détroit d'Ormuz, où agissent les Houthis, notamment sur le fret maritime, avec des attaques ciblées. Et il y a quand même 20% du marché mondial du pétrole qui transite par là. Donc, évidemment, la tension, elle perdure. Mais au-delà de ces tensions géopolitiques, et on pouvait le sentir ces dernières semaines, on a des dynamiques d'offres et de demandes qui amènent doucement le pétrole du côté des 90-95 dollars, un petit peu plus long terme. Et ça, on le sentait depuis un moment. L'OPEP s'en est fait écho. Ça fait les affaires de l'Arabie Saoudite qui a dit en sous-main que 90 dollars, c'était plutôt un bon niveau du côté des cours du pétrole pour pouvoir équilibrer ses problèmes budgétaires. Donc, on sent que avec ces tensions géopolitiques, on a un pétrole qui, d'autant plus, atteint des niveaux qui contentent à peu près tout le monde, sauf que ça continue à apporter du grain à moudre à tous ceux qui jouent une prolongation des tendances inflationnistes. Et ça, c'est un phénomène important. Alors, parmi les autres signes de tension sur les marchés, c'est vrai qu'on a une décrue à court terme sur les prix de l'or, mais l'or a signé un plus haut absolu bien au-delà des 2400 dollars. C'était vendredi, là on corrige un petit peu 2369, mais on voit que les signaux de tension restent là. Sur les marchés actions, on a pu le voir en début de séance, c'était vraiment un cas symptomatique. Les plus fortes hausses, c'était Airbus, Thales, Safran, Dassault Aviation sur le SBF 120. Donc on sent qu'on se rachète un fonds de portefeuille des valeurs de défense, des valeurs liées à l'aéronautique, à la défense. Donc ça, c'est important aussi. Et puis la volatilité. C'est vrai qu'elle a tendance à un petit peu décroître du côté du VIX, l'indice de la volatilité américaine. Elle repasse sous les 17 points. Il est fondamentalement pas très élevé. On sait qu'il peut vraiment casser tous les plafonds quand il est question de stress bancaire ou de crise financière, etc. On reste du côté des 17. C'est un plus haut qu'on avait atteint lors de l'automne dernier. Donc vous voyez, signaux d'apaisement à très très court terme. Enfin, on a un fonds de sauce qui reste extrêmement tendu sur les marchés, qui sont toujours prêts à décaler en cas de problème.
En cas de problème, et notamment l'Iran qui déclare pouvoir fermer à tout moment le détroit d'Ormuz, vous savez, ce petit bout de mer entre l'Iran en face d'Abu Dhabi, pas loin d'Oman, voilà, cet endroit stratégique qui influe les marchés, une menace formulée par un des hauts gradés des gardiens de la Révolution, si ça devait arriver, on ne peut que redouter, même si c'est peu probable, une flambée du prix des pétroles et puis surtout une riposte militaire américaine. Nous continuons à surveiller cette situation et à la décrypter. Elle a déchiffré économiquement pour vous, chers auditeurs, auditrices. Merci Antoine. Séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site web d'ici quelques secondes. L'histoire financière d'Antoine tous les jours vers 11h10 sur BFM Business. Il est l'heure, malgré tout, de parler immobilier avec Marie-Cœur de Roy, notre invitée. À tout de suite.
Tout pour investir. La place de l'Immo.
La place de l'IMO, indépendamment évidemment de l'information internationale. Marie Cœur de Roy est avec nous. Bonjour chère Marie.
Bonjour Lorraine.
Nous ne sommes pas seuls. Boris Vienne est avec nous. Bonjour Boris.
Bonjour.
Vous êtes notaire, vous êtes aussi à la tête de l'Union Nationale des Notaires Employeurs. Avec vous, on va faire un petit topo sur la crise du point de vue de votre profession. On va également parler de l'impact de cette crise pour les finances publiques, puisque vous êtes un petit peu un radar finalement. Pas un colibri, on espère, un radar de la situation. Et puis, on accueille Marie. Après une semaine, vous nous avez manqué, chère Marie.
Oui, vous aussi. Non, je plaisante. Une semaine de vacances, c'est toujours plaisant. Donc
pourquoi nous accueillons avec intérêt intellectuel un notaire dans notre émission?
Alors d'abord, Marie, parce que c'est Boris Vienne, de base. Non, et puis surtout quand on sait qu'il est partie intégrante de ce qu'on a appelé l'Union pour le logement, une alliance pour le logement. Alliance pour le logement. Alliance qui regroupe, et on en parlait hors antenne, tout un tas de fédérations du secteur de l'immobilier et du logement au sens large, puisqu'on le disait, ça va des bailleurs sociaux aux promoteurs, en passant par les notaires, les agents immobiliers et j'en passe. Le sujet aujourd'hui de cette alliance pour le logement, c'était de peser dans le débat public et d'alerter les pouvoirs publics sur l'état de la crise du logement. J'ai envie de poser une Question assez simple. On a fini le premier trimestre, on entame le deuxième. On en est où aujourd'hui de cette crise du logement? Est-ce que ça va un peu mieux? Est-ce que c'est toujours très difficile?
Non, on va pas faire semblant. C'est toujours très difficile. C'est pas parce que de temps en temps, y a une espèce de début d'embellie que ça va mieux. Non, ça fait 18 mois maintenant, bientôt, que nous sommes bien installés dans la crise du logement et que nous n'en sortons pas.
Mais là, par exemple, typiquement, je sais que depuis le début de l'année, sur le plateau de BFM et un peu partout, on entend que les taux d'intérêt repartent un tout petit peu à la baisse, que les banques sont un peu moins regardantes sur l'apport personnel, que concrètement, on a des acheteurs qui sont un petit peu plus en capacité d'acheter qu'ils ne l'étaient en fin d'année dernière. Est-ce que ça, c'est pas de nature à donner un peu de mieux? On a même des agents immobiliers qui me disent « ça y est, il y a les visites qui reprennent ».
Oui, il y a le début, quand vous repartez de zéro, quand vous avez trois visites, effectivement, vous avez le sentiment que tout va beaucoup mieux. Et nous, c'est pareil.
Ouais.
Parce qu'après, ça se finit par une promesse de vente et une vente. Mais il faut être sérieux. La relance, elle n'y est pas encore. Pourquoi? Parce que ce qui est important là-dedans, c'est l'envie d'acheter. On l'a perdue, on ne la retrouve pas aujourd'hui. Alors effectivement, il y a une baisse des taux. Qui est pas non plus extraordinaire, ouais. Et surtout il y a un blocage qui est important au niveau des vendeurs. Prenons un exemple. Vous achetez en 2020 un bien avec un taux à 1%. Aujourd'hui, vous vous dites en temps normal, tiens, j'arrive à 4-5 ans. On arrive plus ou moins dans le turnover. J'ai été un jeune couple, on a eu un enfant, voire un deuxième.
Pardon, vous êtes notaire, ça dépend si on a remboursé nos frais de notaire dans l'histoire.
Non, je parle de l'acquisition avec un prêt à taux 1%. Mm. Donc ce qui veut dire qu'en l'espace de 4-5 ans, vous avez amorti, quoi qu'il arrive. Mm. Et aujourd'hui, vous vous dites, tiens, on a eu un enfant de plus et on voudrait acheter un bien un petit peu plus grand.
Avec une pièce en plus.
La seule problématique, c'est que les prix n'ont pas bougé, les taux ont quadruplé. Et on se retrouve dans une situation où je ne vais quand même pas lâcher la proie pour l'ombre. Je ne vais quand même pas lâcher un prêt où j'étais à 1% pour acheter avec un prêt à
4%. Mais Boris, soyons honnêtes. Est-ce qu'ils sont si nombreux, ces acheteurs de 2020-2021, à être dans cette obligation de vendre? On parle assez régulièrement des fameux 3D, 5D maintenant. Enfin, je ne sais plus combien il y a de D, mais sur ces vendeurs pressés, décès, divorce, déménagement, dette, DPE, tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas si nombreux que ça à avoir acheté en 2020-2021, au moment où les taux étaient proches d'1%, et à être dans l'obligation ou la nécessité de revendre aujourd'hui. On est quand même sur, majoritairement, des vendeurs qui ont du mal à accepter juste de réduire un tout petit peu leur plus-value, pas de renoncer à elle.
Je ne parle pas des 5, des 3 ou des 10 dés. Je parle de tous les autres, là. Ceux qui ont, à un moment donné, dans leur projet, juste
l'envie
de vendre.
L'envie d'avoir envie.
Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, cette envie, elle n'y est plus. Elle n'y est plus pour des tas de raisons. Celle dont on vient de parler en fait partie. Et donc, à partir du moment où cette envie n'y est plus d'un côté, au niveau des vendeurs, en face des acheteurs qui ne sont pas là, vous avez forcément un marché qui se rétrécit en volume, et donc forcément, vous avez toujours des prix qui vont rester quand même soutenus.
Mais comment on fait? On tord le bras aux vendeurs? Parce qu'en fait, il y a quelque chose à leur faire comprendre aussi aux vendeurs, c'est que souvent, quand effectivement notre jeune couple qui va avoir un deuxième ou un troisième enfant veut s'agrandir, il va racheter un autre bien, donc il a tout intérêt à ce que le prix de bien qu'il va racheter soit aussi orienté à la baisse. Donc à un moment donné, comment on fait? On fait de la pédagogie? On les force? On leur dit quoi?
Mais quand j'ai un prêt qui passe de 1 à 4%, ça joue dans la balance. Et cette balance, quoi qu'on puisse dire, de toute façon, elle a un impact sur mon quotidien. Et si j'avais la capacité, par contre, de garder mon prêt à 1% pour pouvoir racheter...
Là, voilà la proposition.
Pour pouvoir racheter derrière, eh bien évidemment que je continuerai mon emprunt. Et de l'autre côté, mon acquéreur, lui, de toute façon, se retrouve dans une situation où il aurait son emprunt à 4%.
Quelle banque, Boris, banque va accepter, à l'heure actuelle, de faire prolonger, de garder un taux à 1% sur un nouveau crédit, alors que, elles empruntent pas à ce niveau-là?
Si vous faites partie de ces banques-là, écrivez-nous.
Mais vous devez faire partie de ces banques-là, au-delà. Parce que si rien ne se passe, c'est plus d'emprunt du tout. C'est plus d'offres de prêts qui sont consenties. Là, au moins, vous avez le 1% qui est conservé. Il y a toujours un petit delta parce qu'on achète toujours un tout petit peu plus cher. Donc, le delta, il vient à 4%. Et l'acquéreur va acheter celui que je vends pour racheter. Donc, je vais avoir à un moment donné un acquéreur pour mon bien. Il va acheter à 4%. Donc, on se retrouve dans une situation où tout le monde s'y retrouve.
Mais non, la banque, quand même, derrière, elle perd de l'argent. Quand elle emprunte de l'argent pour financer, justement, le commun des mortels, vous et moi, si nous souhaitons acheter, elle emprunte beaucoup plus cher qu'elle va me prêter. Donc, quelque part, elle va perdre de l'argent. Pourquoi ferait-elle ça?
Elle l'a déjà prêté, celui à 1%. Elle ne le reprête pas.
Ah bah elle va allonger, j'imagine, le crédit. Si par exemple, moi, jeune couple, j'ai déjà remboursé 10 ans et que je veux me réendetter sur 20 ans pour pouvoir racheter plus grand.
Ah mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus.
Bah oui, mais c'est pour ça que je...
On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que on devrait avoir la possibilité, je dirais, de continuer son emprunt au fur et à mesure de ses achats, sans bien évidemment bénéficier 10 ans de plus d'un prêt à 1%. Si je veux décaler mon prêt sur... quelques années de plus, eh bien, il y a des calculs à faire en fonction des taux actuels.
D'accord, donc vous, votre théorie, c'est pas de dire je vais reprendre un crédit au même taux d'intérêt, je vais garder celui que j'ai en cours et tout ce qui dépasse, je le mets au tarif du marché.
C'est tout à fait ça.
Exactement, d'accord. Donc vous, vous me dites, en gros, tant pis si les prix baissent pas, tant que les taux d'intérêt restent bas.
Tant que ces taux d'intérêt restent bas là. Parce que ça permet de créer, alors bien évidemment, à elle toute seule, cette proposition, elle n'est rien. Elle est inclue dans un tout. Et c'est ce tout qui fait qu'il peut y avoir bien évidemment une relance. Là, on parle de quelques vendeurs. Après, il faut trouver des acheteurs. Pour retrouver les acheteurs, comment on fait?
Les primo-accédants, ceux-là?
Les primo-accédants, bien évidemment. Et vous avez les droits de mutation à titre onéreux, donc vous me
parliez tout à l'heure. Je veux absolument parler avec beaucoup de plaisir.
C'est pas souvent qu'on a un acteur du monde notarial sur cette séquence immobilière. Parfois, on l'a sur les questions de fiscalité et de finances et d'éducation financière dans le reste de l'émission. Expliquez-nous, Marie et Boris, rappelez-nous le lien qu'il y a entre votre profession notaire et nos finances publiques qui ont besoin d'argent.
Les DMTO, par exemple, parce que ce qu'on appelle... Je voulais juste le dire, parce que souvent, moi, j'ai des notaires qui peuvent m'écrire, dès que je dis frais de notaire à l'antenne, waouh !
Vous faites en guirlandais.
Mais oui, parce qu'effectivement, je suis systématiquement obligée de rappeler qu'en fait, il s'agit des DMTO, des droits de mutation à titre onéreux, et que l'essentiel de cet argent-là ne va pas dans la poche du notaire, mais des collectivités locales. C'est bien ça, a priori.
C'est tout à fait ça. Nous sommes un collecteur d'impôts gratuits pour l'État. Il faut le dire. Nous sommes un collecteur gratuit pour l'État d'impôts. Les droits de mutation, les impôts que nous collectons, grosso modo, c'est aux alentours de entre 20 et 30 milliards, tout compris. Si vous prenez les ventes d'immobilier...
Bah, 20 ou 30 milliards, il nous manque précisément 10 milliards dans nos finances publiques.
Eh bien, c'est tout à fait ça. Et justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand tout va bien, on est à 30, et quand on passe de 30 à 20, et qu'on n'a pas prévu qu'on allait passer de 30 à 20, malgré certaines alertes, dont celle de l'Alliance pour le logement, on est parfois surpris. Mais je vous rassure, nous, on n'est absolument pas surpris qu'il y ait eu cette baisse. On l'a dit haut et fort. Et quand vous avez 10 fédérations, comme vous le disiez tout à l'heure Marie, qui n'ont pas forcément des intérêts convergents systématiquement, et qui sont toutes d'accord pour dire nous avons un problème, mais pas un problème, un gros problème, et nous allons tout droit dans le mur, il faut savoir à un moment donné écouter les professionnels.
Parce que là, ça se chiffre en combien? En milliards d'euros en moins pour les collectivités locales à cause de la baisse du nombre de transactions et la légère correction des prix. Puisqu'on rappelle, les frais de notaire, pardon, les DMTO, sont fonction et du prix et du nombre, du volume de vente, évidemment, qu'on va enregistrer.
Ce qu'on appelle les frais de notaire, qu'on préfère, vous l'avez compris, appeler frais d'acquisition, ça génère quoi? Ça génère, c'est à peu près 8%. Sur ces 8%, on va faire simple, vous avez 1% qui représente la rémunération de l'étude, 7% qui représente de l'impôt sous différentes formes. Et dans ces 7%, vous avez 6% qui s'appellent les droits de mutation à titre onéreux.
Qui vont sont au département.
Au département, à la commune, à la région. Et qui sont de l'impôt pur lié à chaque acquisition. Mais il faut pas oublier qu'il y a une deuxième salve d'impôts. Il y a l'impôt du vendeur, et l'impôt du vendeur, ça s'appelle la plus-value. Et si je ne vends plus, ben, il n'y a pas de plus-value. Et si j'achète pas, il n'y a pas de droit de mutation à titre onéreux. Et tout ça, ça fait quand même des sommes relativement rondelettes, parce que nous payons aussi gratuitement, pour le compte de l'État, à l'État, les plus-values. C'est-à-dire que sur le prix de cession,
reversé,
nous prenons ce qu'il y a lieu de payer à l'État, et nous le payons directement à l'État. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, entre ce qui ne rentre plus et ce qui ne sort plus, ce qui ne rentre plus dans le cadre de l'acheteur et ce qui ne sort plus dans le cadre du vendeur, que bien évidemment, c'est un manque considérable à gagner pour l'État et les collectivités.
Il y a eu aussi beaucoup de sujets justement sur les DMTO et sur l'idée de dire les frais de notaire, frais d'acquisition, on met tout ce que vous voulez là-dedans, que ça empêchait la mobilité justement parce que ça avait un poids un peu trop important. Est-ce que vous seriez par exemple partisan, parce que bon, bah, quitte à en avoir moins, autant en avoir pas du tout, et puis s'organiser pour qu'on récupère l'argent ailleurs. Est-ce que ça serait une des solutions pour relancer aussi ce marché de l'immobilier?
Et quel ailleurs?
Je ne pense pas. Ouais. Je pense pas parce que... Parce qu'après, ce sont quand même nos collectivités. Et ma collectivité locale, j'y tiens. Et
c'est laquelle chez vous?
Un tout petit village qui s'appelle Cornebarieux.
On l'embrasse.
Voilà, oui, oui.
Dans quel coin?
À côté de Toulouse, banlieue toulousaine. Et effectivement, j'y tiens. J'y tiens. Maintenant, on peut éventuellement discuter sur un laps de temps, faire une espèce de moratoire sur le montant global de cet impôt. Mais il est logique qu'à partir du moment où j'achète, qu'il y ait une partie des frais qui soient payés par l'acheteur, qui aille dans la commune. Pourquoi ? Parce que je vais vivre dans cette commune. Hein. Je suis bien dans une commune parce qu'aussi, eh bien, elle a la capacité à bien me recevoir.
Hein, c'est après, il y a un fonds de péréquation, si je m'abuse, non ?
Chez nous ?
Non, sur les frais de notaire. C'est-à-dire que sur les villes qui ont moins de transactions et donc moins de frais de notaire, parfois, je crois qu'il y a des villes qui récupèrent plus de DMTO, qui reversent à certaines qui n'ont pas assez.
Alors ça, je ne suis pas.
Et il me semble qu'il y a un fonds de péréquation.
Ça, donc, ça existe parfois, chez les notaires. Ça existe chez les notaires. Et nous avons des actes qui rapportent, vous voyez, des tout petits actes qui rapportent 90 euros. Et quand vous avez des notaires pour des questions de maillage, qui restent dans leur territoire et faire des actes à 90 euros, c'est-à-dire des actes qui ne rapportent rien, qui coûtent à l'étude, eh bien ce sont les autres notaires qui payent pour ce notaire, pour qu'il puisse rester sur son lieu.
Du coup, ça va comment chez les notaires ? Parce que c'est ça le sujet, c'est-à-dire que là, on vient de dire qu'effectivement, la crise du logement et de l'immobilier a un impact sur les finances publiques, mais elle a aussi forcément un impact sur votre activité.
Quand vous m'avez dit ça serait bien qu'on se voit tel jour, je vous ai dit oui, je n'ai pas réfléchi. Je ne vous ai pas dit je vais regarder mon agenda.
Ouais.
Oui, bien évidemment, nous sommes impactés. Et plus, j'irai pour aller un tout petit peu plus loin, quelques études en 2023 qui ont été mises ou en redressement ou en liquidation judiciaire, ce n'est pas neutre, hein, ça n'arrive pas chez nous. Et là, en 2023, c'est arrivé. 2024, on craint qu'il y ait une démultiplication de ces redressements ou liquidations judiciaires. En termes d'embauche, les emplois sont arrêtés, et voire même, enfin du moins là, je peux vous parler au niveau des adhérents de l'UNE, des licenciements. Des licenciements, parce que de toute façon, la trésorerie a été mangée en 2023, et aujourd'hui, même si ça ne fait pas partie de notre culture que de licencier, bien évidemment, arrive le moment où on est obligé.
Faudrait faire quoi? Parce que la seule, entre guillemets, proposition dont on a parlé, c'est l'idée de faire perdurer notre fameux taux d'intérêt ultra bas qu'on a décroché en 2020-2021. Ok. Mais faut faire quoi? Parce que, à mon sens, c'est pas suffisant. Il faut faire quoi pour relancer votre profession, relancer ce secteur de l'immobilier et du logement, et puis sauver tout un tas de familles, de ménages qui sont mal, voire pas logés du tout. On fait quoi, là?
Pour conclure, Boris, dites-nous ce que vous diriez si vous aviez le ministre.
Alors,
les ministres.
Elle est à gauche, elle est à droite.
Si
j'avais le ministre du logement face à moi, je lui dirais aujourd'hui, il est plus que temps d'arrêter de croire que la solution, vous l'avez. Il est plus que temps maintenant de venir écouter les acteurs qui ont des propositions. Et quand je dis des propositions, ce n'est pas une proposition, c'est un ensemble de propositions. Et nous restons persuadés que c'est cet ensemble de propositions qui est de toute façon le moteur pour faire relancer la crise du logement. Et si vous me permettrez, alors je m'adresse directement au président de la République, pour autre chose, lorsqu'il y avait eu la fameuse commission Attali, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remontait à quelques
2007.
Années. Il y a quelques années, on dira. Eh bien, notre président de la République était rapporteur. Et la première réflexion qui avait été faite lors de la conférence de presse par son président, qui était Monsieur Attali, avait été de dire « soit vous prenez tout, soit vous ne prenez rien ». Eh bien, nous, aujourd'hui, nous avons un ensemble de propositions à faire. Soit vous prenez tout, soit vous ne prenez rien. Mais si vous ne prenez pas tout, vous en subirez les conséquences. Voilà.
Le message est passé.
Voilà, cette commission Attali qui date effectivement de 2007. Merci Boris Vienne d'avoir pris et de nous avoir donné l'état d'esprit, l'état de travail de votre profession, ce que signifie aussi cette crise économique pour les notaires et puis pour nos finances publiques, puisque vous nous avez rappelé le lien entre les frais d'acquisition et peut-être le déficit que l'on peut déplorer actuellement. On salue tous nos auditeurs de Haute-Garonne, puisque vous nous parliez de Cornebarieux tout à l'heure, et tous nos auditeurs toulousains et autour. Je vous précise que cette séquence est à retrouver en podcast et en replay comme toutes les autres d'ici quelques secondes. L'immobilier, on s'en occupe tous les jours dans Tout pour investir avec Marie Cardoroy et toute notre équipe et nos invités, experts de toutes les professions. A tout de suite, après la pub, on va s'occuper de vous donner une grille de lecture pour mieux comprendre la publication de résultats trimestriels qui démarre.
que vont regarder les traders, les opérateurs de marché? Qu'est-ce que vous devez regarder, vous, en tant qu'investisseur particulier? À suivre, à tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir et vous aider à décrypter cette séquence de publications qui démarre côté US et aussi en Europe, en France, de notre côté. Félix Baron, le fondateur du Club des investisseurs indépendants, est avec nous. Bonjour, cher Félix.
Bonjour, Lorraine.
Nos auditeurs fidèles ont l'habitude de vous entendre le mercredi. Mais j'avais besoin de vous en début de semaine parce que voilà, il y a plein de choses à surveiller. On a les bancaires qui ont commencé à publier côté États-Unis. Vous allez essayer de nous éclairer pour comprendre un peu mieux ce que ça dit de la saison qui démarre. Et puis, on avait un petit exercice de style. Je vous ai demandé de nous lister les thèmes en particulier que les opérateurs de marché regardaient attentivement ou allaient attentivement regarder pour que nous, eh bien, investisseurs particuliers, on puisse s'en inspirer. Nous allons commencer peut-être par se raconter ce qui s'est passé vendredi avec les publications bancaires et ce qu'on doit en retenir.
Ce qu'on doit en retenir, c'est que ça représente bien le paradoxe de la psychologie ultra court-termiste des marchés qui pensent que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel. En fait, il y a eu trois bancaires qui ont publié, JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup. Et la seule qui fait mieux que l'année dernière, c'est celle qui déçoit. Wells Fargo et Citigroup, elles ont baissé, mais comme cette baisse est conforme aux attentes, ça rassure les marchés. Alors que JP Morgan, a un bénéfice net en hausse de 6%, mais la hausse n'est pas assez élevée pour les marchés. Donc ça en dit long en fait sur des attentes qui sont complètement irrationnelles du marché.
Ouais.
Mais ça donne une tendance. C'est selon donc les analyses de Bloomberg, le T1 2024 va a priori être celui qui a la croissance des bénéfices la moins forte depuis le T1 2019. Alors, le corollaire de tout ça, c'est l'inflation modérée, que n'arrive pas justement à trop modérer et à endiguer la réserve fédérale US. Et ça donne, en fait, plusieurs thèmes d'investissement pour savoir choisir un peu ses actions d'ici la fin de l'année. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est la concentration des bénéfices, de la croissance du bénéfice par action sur les Magnificent Seven.
Sur la tech.
Vous avez les 7 plus grosses boîtes du monde, donc, dont on n'a pas besoin de rappeler les noms.
Je le fais, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta et Apple.
Vous allez très vite. Et eux, ils vont très fort parce qu'ils vont représenter 38% de progression des bénéfices sur le T1. Et c'est ça qui tire le S&P 500, parce que si on enlève la concentration des sept magnifiques, la croissance des résultats nets n'est plus que de moins 2%.
Non, ouais.
Vous imaginez la surpondération. Mais le plus intéressant, c'est que les analystes de Bloomberg tablent sur un inversement de la tendance au T4, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, cette surpondération, elle aura beaucoup moins lieu d'être. On aura 18% de croissance des bénéfices représentée par le S&P 500 et plus que 15% pour la tech.
Encore on pourrait qualifier cet inversement du coup d'un retour à la normale. Est-ce qu'il y a une normale?
Il y a un retour à la normale. En fait, il y a un retour au normal de saison, au normal d'inflation, dans le sens où il y a des secteurs qui profitent d'un retour à une inflation modérée. C'est ceux qui ne sont pas essentiels, indispensables à l'économie. Je pense, par exemple, aux technologies de l'information.
Rappelez-nous ce que c'est que les technologies de l'information. Parce que quand on parle de tech, souvent, on met beaucoup de choses dedans. La technologie de l'information, très concrètement, qu'est-ce que c'est?
Technologie de l'information, on va avoir, par exemple, on est sur BFM Business, des chaînes de TV, on va avoir de la presse digitale, on va avoir ce genre de... c'est des exemples, mais on va avoir ce genre de consommation, en fait, qui n'est pas indispensable au quotidien pour des consommateurs par rapport à de l'énergie, de la consommation discrétionnaire alimentaire ou bien ou des transports. Donc, dans un contexte d'inflation normale modérée, techno de l'information, services de communication, équipements publics, infrastructures qu'on avait laissés sans les maintenir ou sans investir, eh bien là, quand le coût de l'argent est un peu plus faible, qu'on revient à une inflation modérée, on peut se remettre à investir sur les infrastructures. Donc ça, c'est les trois secteurs qui devraient dont les sociétés devraient voir les bénéfices par action le plus augmenté en 2024. Il y en a 7 en tout, des secteurs qui vont être bien dynamiques. En plus de cela, la santé, l'énergie, matériaux, métaux, mines, et puis, je l'ai dit, infrastructure, technologie de l'information, technologie de l'information et services de communication.
Bon, ça, c'est ce que vous anticipez. Il y a un sujet quand même autour du cash, de l'argent, qui quand même est présent.
Il y a énormément d'argent. Pourquoi ? Parce que comme l'argent coûte plus cher depuis maintenant plus de 2 ans, eh ben on n'en a pas vraiment emprunté. Donc on a beaucoup moins de dettes à rembourser depuis 2 ans. On arrive à des niveaux de cash et des niveaux de cash flow qui sont extrêmement élevés. Et comme le contexte, bon, on dit qu'il est incertain depuis 2 ans, mais ce qu'on voit, c'est que ça monte.
Oui.
Il a été assez peu propice en fait aux acquisitions. Mais là, si vous faites la somme donc du cash flow, donc du free cash flow qui va arriver juste sur les entreprises du S&P 500 pour le premier trimestre, c'est 400 milliards de dollars. Et si vous faites la somme des positions de trésorerie, donc si vous sommez tous les comptes en banque des 500 boîtes du S&P 500 au 31 mars 2024, vous avez 2500 milliards de dollars.
Voilà, quand on parle de cash, voilà les volumes.
Voilà, bah en un trimestre, en fait, la photo au T1 qu'on prend sur le S&P 500, c'est l'équivalent un petit peu moins du PIB français, et ça, c'est 500 entreprises américaines. Mais c'est une bonne nouvelle, ce niveau de cash, pour les actionnaires, parce que s'il n'y a pas d'acquisition, il va y avoir forcément des rachats d'actions, et les rachats d'actions, bon, ça réduit un peu de capital, mais c'est toujours ce qu'on récupère en rendement pour les actionnaires.
Et pour ceux qui nous écoutent en différé, on est mi-avril, hein, mi-avril 2024. On essaye de se projeter en ce début de saison de publication. Revenons à nous, petits investisseurs particuliers, épargnants. Quelles sont les actions que l'on peut prendre en se basant sur ce que vous venez de constater, Félix ?
Et si on regarde sur les sept secteurs magiques là, dont les bénéfices ont augmenté en 2024, santé, on peut toujours regarder, je pense que même si les multiples sont délirants, on peut toujours regarder les dossiers dont on a déjà parlé ici sur les médicaments anti-obésité et avec le GLP-1 donc autour du diabète. Pas forcément parce que ils sont à des multiples intéressants, je viens de dire plutôt le contraire, mais parce que ils ont un succès et une demande telle qu'on arrive à des pénuries un peu dans tous les pays. Il y a des pénuries en Europe, il y a des pénuries aux États-Unis, donc ça peut être intéressant de continuer à jouer sur cette demande. Ça, c'est pour un investisseur qui a l'estomac bien accroché et qui a une gestion dynamique. Dans la santé, on peut aussi tabler sur des distributeurs ou des pharma européennes qui ont moins progressé peut-être que les pharma US dans les dernières années. Je pense à des Sanofi, par exemple. Ouais. Qui pourraient voir des phases 3 ou des autorisations de mise sur le marché sur des lignes de recherche et développement enfin se concrétiser et en plus-value pour les actionnaires.
Même constat pour GSK ou Roche ?
GSK ou Roche ? Alors, GSK, plus gros marché US. Roche, toujours intéressant parce que j'aime énormément, et vous le savez, la stabilité et la prédictibilité des marchés suisses. Mais c'est toujours bien d'avoir un peu de Suisse en portefeuille, que ce soit en santé ou même en agroalimentaire ou en immobilier, il y a des valeurs intéressantes.
Donc ça, vous nous avez creusé un petit peu sur la santé. Dans les autres secteurs que vous avez identifiés avec potentiel, tout ce qui va être énergie, matières premières, mines, qu'est-ce qu'on peut dire ?
L'énergie, je suis désolé de le dire, malheureusement, le pétrole à la cote, hein, toujours plus. C'est peut-être, avec l'or, c'est peut-être, entre guillemets, la matière première qui progresse le plus et le mieux depuis le début de l'année.
Pour ceux qui nous écoutent en direct, le Brent est toujours en dessous de 90 dollars ce matin, autour de 89,42.
Voilà, ça teste le Brent et teste certains seuils sur les marchés. Mais la réalité, c'est qu'on s'aperçoit qu'après 2 ans, on revient sur le thème de l'argent qui est plus cher, mais où les subventions s'arrêtent sur les nouvelles énergies, où ça coûte finalement un peu cher d'installer des éoliennes, des panneaux solaires, de subventionner des startups d'hydrogène, même si c'est le futur et qu'il faut aller vers un mix, la demande de pétrole, elle est stable. Et si vous faites pétrole plus gaz plus charbon, vous êtes à 81% du mix énergétique mondial. Donc c'est juste une tendance qui est parfaitement liée à la croissance démographique mondiale.
Voilà, qui aussi donne une idée du chemin qu'il y a à parcourir vers un monde sans pétrole, sans gaz.
Évidemment.
Un autre secteur sur lequel peut-être on aurait pu s'arrêter, j'ai une question d'auditeur pour vous. C'est Alain qui a bien noté que vous n'étiez pas là, que vous êtes là mercredi, mais que vous êtes là aujourd'hui, qui nous demande qu'est-ce qui se passe sur le titre Stellantis. Qu'est-ce qu'on peut dire et est-ce qu'on peut raccrocher le wagon Stellantis à ce qu'on vient de décrire ou pas du tout ?
Bien sûr. Stellantis, on disait la semaine dernière que c'était plus 100% de création de valeur depuis l'introduction en bourse en 2021. Est-ce qu'il faut s'arrêter là ? Non. Plus 50% depuis un an, est-ce qu'il faut s'arrêter là ? Toujours pas. Stellantis est un conglomérat automobile comme on en a rarement vu. C'est très rare de voir un conglomérat intercontinental puisqu'il y a des usines et des constructeurs aux États-Unis et en Europe. Il y a un portefeuille de marques extrêmement équilibré, et ça c'est la force des plus grands groupes. Si vous regardez les portefeuilles de marques, que ce soit sur les groupes alcooliers ou sur les groupes de luxe, ce qui compte, c'est vraiment la force des marques. En soi, LVMH ou Pernod Ricard ne sont pas des marques. Stellantis est une marque qui conglomère, qui agglomère différents constructeurs. Mais le plus intéressant sur Stellantis, c'est le niveau des marges opérationnelles. C'est le niveau et le niveau des marges opérationnelles qui progresse, qui est énorme pour un constructeur automobile. Et on arrive, si on regarde aujourd'hui, à des multiples, à des valorisations qui sont encore attractives. Stellantis, aujourd'hui, vous achetez 5-6 fois le rapport annuel, 5-6 fois le résultat net. C'est vraiment pas grand-chose pour un constructeur automobile qui est, dont l'endettement est relativement maîtrisé et qui arrive à concentrer, encore une fois, les meilleures marques de moyen haut de gamme sur les marchés où elles sont. Donc Stellantis, moi, je suis toujours à l'achat.
Est-ce que Stellantis fonctionne comme un ETF automobile ?
Bah, techniquement, on n'en est pas loin. Techniquement, on n'en est pas loin. Après, il faut quand même... Si on voulait faire un ETF automobile, ce n'est pas inintéressant de regarder Toyota. Parce que c'est quand même un énorme constructeur et évidemment certains constructeurs allemands pour diversifier.
Merci beaucoup Félix d'avoir posé votre regard sur les thèmes à surveiller en ce début de publication des entreprises que nous allons décortiquer au fil des jours dans BFM Business. Ça vous concerne, on parle d'histoire d'entreprise, on ne parle pas que de cours de bourse, on décrypte, on déchiffre dans cette émission avec nos experts. On vous retrouve mercredi Félix.
Avec grand plaisir.
On parlera un peu pharma je crois, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé pharma avec Laurent Grassin. On décryptera un petit peu ce secteur à nouveau et puis toutes les questions que vous aurez peut-être à nous poser pour que nos experts y répondent. L'adresse est directe à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn, je vous lis comme Alain. Vous voulez savoir ce qu'on faisait de Stellantis ? On vous a répondu, cher Alain. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site BFM Business. Vous restez branchés avec nous, on va continuer à s'occuper de votre culture financière. On va reparler d'immobilier, tiens, avec Frédéric Lorenzini. On va parler endettement immobilier des ménages. Est-ce que la cote d'alerte est atteinte ? Réponse dans quelques secondes. A tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement dans l'immobilier, peut-être. Nous allons décortiquer une note de la Banque de France qui s'est penchée sur l'endettement immobilier des ménages français. Quel est le problème ? Réponse de vous, Frédéric Lorenzini, bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le fondateur de Deep Darsana avec nous pour réfléchir sur cette dette immobilière, on pourrait peut-être presque l'appeler. Racontez-nous rapidement.
La Banque de France, vous l'avez dit, a publié la semaine dernière, donc c'est tout chaud, une note, qui étudie l'évolution de la dette immobilière. Hein, pas de la dette en général, de la dette immobilière en France, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Espagne. C'est intéressant de mettre en perspective dans le temps, mais aussi par rapport à nos voisins, parce qu'on voit des choses. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le poids de cette dette a augmenté, particulièrement en France. Entre 2017 et 2021, donc sur 4 ans, hein, c'est assez rapide. Il a augmenté, alors pas de façon égale chez tous les ménages. On parle de percentile, le percentile 90 à 95, c'est les ménages. C'est pas les plus aisés, mais c'est sur le haut, entre guillemets, du panier. Ben, cette dette, elle a littéralement explosé, elle a augmenté de 33%. Ça, c'est beaucoup. Alors, les évolutions, elles sont contrastées selon les pays. Et en France, ça a littéralement explosé, donc ça pose plein de questions.
Est-ce que c'est un problème français, franco-français ?
Alors, c'est un problème assez franco-français, c'est un problème pour les particuliers, c'est aussi un problème pour les entreprises. Pourquoi c'est un problème franco-français ? Parce que le poids de la dette, le ratio dette-revenu, hein, vous avez une dette, vous portez une dette, vous avez des revenus, ce ratio dette-revenu, il s'est dégradé en France. Alors, vous allez me dire, c'est léger. Entre 2017 et 2021, on est passé de 0,64 à 0,83. Okay ? Donc, c'est pas énorme, mais quand même, ça s'est dégradé. Alors que dans le même temps, en Allemagne et en Espagne, ce ratio, il s'est amélioré, il est stable en Italie. Donc, question, pourquoi ça se dégrade en France alors que ça s'améliore sur les économies ?
Pourquoi la solvabilité des Français est moins bonne ?
Alors, voilà, ça pose la question de la solvabilité du marché, des ménages. Que se passe-t-il si le ralentissement économique se poursuit ? Que se passe-t-il si le chômage augmente ? Si les taux restent durablement élevés, est-ce que le poids de cette dette immobilière des ménages en France ne risque pas d'exploser, de devenir insupportable.
Pardon Frédéric, est-ce que je peux prendre le contre-pied ? Est-ce que c'est si inquiétant d'être endetté ? Je ne crois pas.
Est-ce que c'est si inquiétant d'être endetté ? C'est toujours une notion relative, il faut être dans une vision dynamique des choses. Si vous avez moyen de rembourser votre dette, c'est plutôt bien d'être endetté. Alors, le problème, c'est qu'on a les chiffres jusqu'en 2021. Il y a eu 2022, il y a eu 2023.
Il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé quand même pas mal de choses. Il y a eu la remontée des taux. Alors, un autre chiffre qui est intéressant quand même concernant la dette immobilière en France, on a vu le ratio dette sur revenu. Il y a aussi un autre ratio qui est le ratio service de la dette sur le revenu. Service de la dette, c'est ce que vous payez tous les mois régulièrement pour rembourser. Ce service de la dette, alors là aussi, légère détérioration, on est passé de 0,17 à 0,19, on a perdu 2 points de base, c'est pas énorme. Mais là encore, quand on met en perspective par rapport à nos voisins allemands ou nos voisins espagnols, dans le même temps, chez les Allemands et chez les Espagnols, ça s'est amélioré. Donc là aussi, on se dit, pourquoi? Alors, attention, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que les ménages qui sont endettés en taux variable avec la hausse des taux, c'est pas une bonne chose.
Alors, les taux variables, il faut dire que c'est la norme là-bas. C'est la norme en dehors de Chine ou pas?
Absolument. On est jusqu'en, on a des chiffres jusqu'en 2021. On n'a pas encore les chiffres sur le nouveau stock depuis la hausse des taux. Et puis, il y a une question, c'est quid de la valorisation de l'immobilier résidentiel? Alors, je vais faire le vieux boomer, si vous le permettez.
Allez-y.
Entre 1990 et 1994, en Île-de-France, l'immobilier résidentiel a en moyenne perdu 40%.
On va le redire pour les plus jeunes qui nous écoutent. Moins 40% dans la décennie 90.
Ouais. Ça veut dire quoi? Parce qu'on a toujours cette idée que la pierre,
ça monte.
Oui, et puis qu'il y a une matérialité. Bien sûr qu'il y a une matérialité. Bien sûr qu'elle ne va pas disparaître. Bien sûr que si vous avez besoin de vous loger et que vous êtes propriétaire de pierre, vous allez pouvoir vous loger dedans. Ça, c'est vrai. Il y a une valeur d'usage. À côté de la valeur d'usage qui est indéniable, il y a une valeur financière qui, elle, peut varier dans des proportions.
Une valeur de marché, on peut
le dire. Oui, une valeur de marché qui peut varier dans des proportions dramatiques. C'est ça le sujet.
Bon, question quasi rhétorique pour finir, ouais. Frédéric. Est-ce que les perspectives économiques peuvent réellement impacter la résilience
La résilience, oui. Ouais, je vais vous répondre à deux vitesses, si vous le permettez, je ne vais pas. Jusqu'à présent, les perspectives publiées par le FMI sont à court terme. Globalement positive. En même temps, le FMI, sur le moyen terme, 2030. 2030, c'est bientôt. C'est bientôt. Les perspectives du FMI sur 2030, elles sont moins enthousiasmantes. On tape sur une croissance globale de 2,8. C'est-à-dire, on tape sur une croissance globale inférieure à ce qu'on considère être le potentiel et le trend historique qui est à 3,8.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, un dernier chiffre issu de cette étude de la Banque de France sur l'endettement immobilier des Français, c'est la valeur des actifs. Ben, la valeur des actifs en France, quasiment sur toutes les tranches de revenus de population, entre 2010 et 2021, cette valeur d'actifs, elle s'est contractée. Alors que dans le même temps, si je regarde en Allemagne, cette valeur des actifs immobiliers, elle a continué à croître sur toutes les tranches de revenus. Et là, on se dit, on risque d'avoir un effet de squeeze entre des taux qui montent, un endettement qui monte et des valeurs de sous-jacents qui sont en train de se contracter. On le voit sur l'immobilier résidentiel, on le voit sur le marché des SCPI.
Oui.
Donc vigilance, je pense que c'est pas par hasard que la Banque de France a publié cette note la semaine dernière.
Pardon Frédéric, dans cette volonté de démocratisation, de déchiffrage de cette émission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de la résidence principale des Français baisse?
Il y a une érosion. C'est très concret. Je vais prendre un exemple concret. Vous êtes un jeune couple, vous avez 25, 30, 35 ans, vous endettez sur X années. Tout va bien jusqu'au moment où le taux de divorce en France est de l'ordre de 50%. 5-10 ans plus tard, vous divorcez, vous avez besoin de réaliser votre actif, vous vendez votre bien immobilier que vous avez acheté en couple, et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous devez plus d'argent à la banque que la cession du bien ne vous en rapporte. C'est très concret.
C'est le quotidien. On a certains auditeurs qui nous décrivent.
Et c'est ça l'insolvabilité. Donc, vigilance sur ces questions d'endettement autour de l'immobilier. Oui, c'est bien de s'endetter quand on a de la visibilité sur ses flux futurs.
Est-ce que Frédéric, vous qui observez l'économie depuis quelques temps, ça peut venir baisser la cote d'amour de l'immobilier. Les Français, on sait, adorent la pierre. Se lance souvent dans des investissements immobiliers sans forcément réfléchir. Beaucoup de jeunes gens et de moins jeunes gens considèrent que si on n'est pas propriétaire de sa résidence principale à 30 ans, on a raté sa vie.
Ouais.
Quand on voit la rentabilité de l'immobilier, notamment, je pense, pour les couples parisiens, on se pose quand même vraiment la question. Est-ce que cette réalité économique, elle peut venir enlever cette espèce de passion immobilière qui n'est pas toujours financièrement raisonnable?
Difficilement, parce que vous le dites, c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. Et il y a dans la tête des Français que la pierre, c'est, entre guillemets, un petit peu sacré. Et donc, je pense qu'avant d'entamer l'enthousiasme des Français pour l'immobilier, il va falloir plusieurs douches. Et on n'est qu'au début. Et je pense que le marché va continuer à bénéficier de cet enthousiasme, de cet engouement des particuliers pour la pierre.
On est au début de la douche, vous nous dites qu'il reste un peu d'eau chaude dans le...
il reste un peu d'eau chaude, mais à mon avis aussi de l'eau froide.
Merci beaucoup Frédéric Lorenzini, fondateur de Deep Darsana, avec nous sur l'endettement immobilier des ménages. Est-ce que la cote d'alerte est passée ou au contraire, est-ce qu'on peut prendre un peu de recul? Voilà, on est endetté immobilièrement, mais est-ce que c'est si grave? Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site BFM Business et l'application BFM Business. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière de cet endettement des Français... 1400 milliards, si je ne dis pas de bêtises. C'est la fin de Tout pour Investir. Merci à toute l'équipe d'avoir bien géré. Je salue Yann et Jonathan aux manettes de l'émission et à Maurice Tonkeda qui nous a rejoint. Demain, nous serons peut-être de retour dans notre petit studio. Donc, si vous avez noté quelques petits problèmes à l'oreille ou à la vue, je vous présente nos excuses. Nous sommes mobilisés pour fabriquer de l'information économique en direct, en toutes conditions, sur BFM Business. Vous continuez à nous écrire. Vous connaissez l'adresse. Vous pouvez également m'écrire sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, elle est probablement déjà disponible en podcast ou en replay sur l'application ou le site BFM Business. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. Au programme, nous allons parler de la Chine. L'information économique, vous le savez, est parfois très partielle chez nos confrères médias plus grand public. Mais la semaine dernière, l'agence de notation Fitch a placé la note souveraine de la Chine sous perspective négative. Et puis demain, c'est probablement la statistique la plus importante de la semaine, publication du PIB chinois au premier trimestre. Amélioration ou stagnation, à quoi vous attendez-vous et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers? Demain, au décryptage, nous parlerons donc de la Chine. Et puis, on parlera automobile, on parlera bagnole, vous savez, j'aime bien ce sujet. On sera avec la maison Agut pour parler de voiture, d'investissement dans la voiture. Avant cela, et en toute sérénité technique, Sandra Grandois arrive pour prendre essayer le relais dans notre studio pour avec vous. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Quel est le programme de l'émission?
Dans ce studio ou dans un autre, on continue à répondre à vos questions. Par exemple, comment optimiser son CV pour décrocher un job? On va vous aider à relancer votre entreprise, à recadrer un collaborateur réticent. On va parler d'heures supplémentaires aussi. Et puis cette question, faut-il alléger la charge mentale des managers? On parle beaucoup des managers dans cette émission. Vous nous posez vos questions, vous aussi, à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Vous pouvez réagir, nous écrire aussi en live sur les réseaux sociaux. Il y a nos quatre experts autour de la table jusqu'à 13h qui sont là pour répondre à toutes vos interrogations sur la vie en entreprise. Vous êtes les bienvenus.
Alors ça, c'est d'ici quelques minutes, 4 minutes pour être précise. Et puis à 15h, vous allez retrouver Amaury de Tonquédec aux manettes de BFM Crypto, le club. Bonjour Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Le programme de votre émission?
Ça y est, on a des ETF Bitcoin Spot et Ethereum Spot à Hong Kong. Ils ont été approuvés ce matin, donc évidemment, on va en parler tout à l'heure. Ça y est, on a des ETF en Asie, 3 mois après l'approbation des 11 ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. On reviendra aussi sur ce qui s'est passé ce week-end. Malheureusement, sur la géopolitique, ça a beaucoup saigné sur le cours des cryptos, notamment certains altcoins, des -30, -40%. On verra pourquoi, on verra si c'est durable, on verra si le Bitcoin a joué son rôle ou non de valeur refuge. Et puis, on débriefera la Paris Blockchain Week qui a eu lieu la semaine dernière, beaucoup d'acteurs présents. On voit qu'en Europe, a priori, on a quand même pas mal de cartes en main, mais il ne faut pas traîner, il faut continuer comme ça. On en parle à 15h.
On rappelle que vendredi, a priori, ce sera le halving. On sera en émission spéciale dans Tout pour Investir avec vous, Amaury, pour décrypter ce que ça signifie pour vous qui investissez en Bitcoin et en crypto, si vous considérez que ce sont des actifs comme les autres. Et puis un mot, vous savez, le Bitcoin a traité pendant tout le week-end, puisque le marché ne ferme pas. Et il a un peu descendu, le Bitcoin, quand même, ce week-end, avec évidemment la situation géopolitique, jusqu'à 61 000 dollars. À l'heure où on se parle, on est autour de 66 325 dollars, le Bitcoin en dollars. Je viens de dire que c'était en dollars. Je vous dis à demain et bonne écoute sur notre antenne.
Tout pour investir sur BFM Business.